économie, passion. Sur la route, Jean-François Loiseau.
Bonjour, le SIV opérationnel en France, le nouveau système d'immatriculation des véhicules, prévoit l'attribution à vie d'un numéro à chaque voiture particulière ou utilitaire. Il va également permettre l'affichage d'une préférence régionale. Explications et modes d'emploi avec notre invité. Nous accueillons aujourd'hui Gérard Gachet. Il est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Route du Monde vous emmène aujourd'hui dans le nord de l'Irak, à partir de la frontière du sud-est de la Turquie, une région à majorité kurde en pleine reconstruction. Reportage de notre envoyé spécial Fatma Kizilboga. La Pan-European 1100 ST est morte, vive la STX 1300. Honda perpétue la légende des grandes motos routières depuis 20 ans et c'est notre spécialiste des gros cubes, Frédéric Gassman, qui l'essaye pour vous dans un instant. Et puis nous terminerons par un petit tour sur la Côte d'Azur en voiture de sport des années 60 ou 70 grâce à Rent-A-Car Classic qui met à la disposition des amateurs toute une collection d'autos qui se sont illustrées notamment au cinéma. Rendez-vous en fin d'émission.
Sur la route.
C'est parce que l'ancien système était complètement saturé que le ministère français de l'Intérieur lance ces jours-ci le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, est organisé sur une nouvelle logique de numérotation avec chiffres et lettres, mais il permet également d'afficher une préférence régionale et surtout, il accompagnera une voiture pendant toute son existence et c'est là que réside la principale innovation. Nous avons demandé à Gérard Gachet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de nous détailler ce nouveau système, tout en nous expliquant les raisons de sa mise en route.
L'actuel système, qui date de 1950 quand même, est en voie de saturation d'une part, dans certaines villes, notamment à Paris, où on n'imagine pas qu'on puisse rajouter une lettre ou un chiffre de plus, et les plaques ne seraient plus visibles, et surtout parce que ce système est totalement à bout de souffle sur le plan informatique. Songez qu'on peut même pas y greffer de nouvelles applications Internet, alors que dans le nouveau système, par exemple, si vous changez d'adresse, si vous déménagez, vous pourrez déclarer votre changement d'adresse via Internet et recevoir une étiquette à coller sur votre carte grise avec votre nouvelle adresse. Donc, toutes ces raisons font qu'il était urgent de préparer un changement. C'est ce qui se fait depuis maintenant 5 ou 6 ans. On travaille sur ce nouveau système d'immatriculation des véhicules.
Alors, cela va concerner qui ? Il y a deux dates, je crois, butoir, qui rentrent en vigueur.
Alors, pardonnez-moi, il n'y a pas de date butoir. C'est-à-dire que tout ça va se faire progressivement. Il y a deux dates de démarrage. Il y en a une, c'est le 15 avril pour les véhicules neufs. Et il y en a une autre, c'est le 15 juin pour les véhicules d'occasion. Mais ceci étant, si quelqu'un conserve sa voiture, ne déménage pas, ne change pas de département, eh bien, il peut garder son numéro d'immatriculation actuel tout au long de la durée de son véhicule.
En gros, tant qu'il n'y a pas de changement de carte grise.
Tant qu'il n'y a pas de changement de carte grise, les personnes qui ont une voiture dans l'ancien système peuvent le conserver sans changer d'immatriculation.
Alors, est-ce que ça ne va pas être extrêmement compliqué de gérer tous ces systèmes qui vont cohabiter ?
Non, puisqu'ils seront tous reversés dans le même fichier central, dans le même système d'immatriculation des véhicules, qui pourra gérer à la fois les nouvelles plaques, les nouveaux systèmes d'immatriculation et les anciennes au fur et à mesure du renouvellement du parc de véhicules. On pense qu'il faudra 5 ou 6 ans pour que l'ensemble à peu près du parc automobile français bascule dans le nouveau système. Il n'y a pas de normes européennes en ce qui concerne les plaques. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a des systèmes différents selon les pays. En revanche, il est vrai que tous les pays européens sont dans le même état que nous, c'est-à-dire ont récemment ou vont devoir changer leur système qui là aussi devient obsolète. Alors en ce qui concerne la France, il y aura donc sur la plaque, sur la gauche, une partie comme aujourd'hui avec le F, la lettre F pour France et le drapeau européen sur un fond bleu. Au milieu, sur fond blanc, le numéro d'immatriculation au sens strict, c'est-à-dire deux lettres, un tiret, trois chiffres, un tiret, deux lettres. Et sur la droite de la plaque, là aussi sur fond bleu, un identifiant local, comme on dit, c'est-à-dire un numéro de département de votre choix, et au-dessus le logo de la région à laquelle ce département appartient.
Ce sera obligatoire cette dernière partie, on peut opter pour aucune localisation?
Non, c'était au départ, il y avait cette option d'aucune localisation, mais vous savez qu'un certain nombre de parlementaires se sont émus de la disparition éventuelle, en tout cas impossible, du numéro de département sur la plaque, et dans un esprit de conciliation pour tenir compte de leurs remarques, le ministre de l'Intérieur, Mme Alliot-Marie, a décidé qu'il faudrait qu'il y ait un identifiant local. En revanche, nous avons gardé le principe de liberté, qui est le choix du département, qui est de libre choix du propriétaire du véhicule. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que, comme vous le savez, le nouveau numéro d'immatriculation, et c'est ça la nouveauté essentielle, sera lié à vie au véhicule. Depuis sa mise en circulation jusqu'à sa destruction, une voiture gardera le même numéro d'immatriculation. Donc ce numéro est indépendant du domicile du propriétaire, qui peut changer. C'est pour ça qu'on a jugé qu'il n'était pas indispensable d'imposer que le numéro de département soit obligatoirement celui du domicile. Ça peut être celui de votre naissance, du département avec lequel vous avez le plus d'attaches personnelles. Voilà.
Donc, si j'ai bien compris, si j'habite à Lille, j'ai le droit, dans cette partie droite de la plaque d'immatriculation, d'y faire figurer, par exemple, je dis n'importe quoi, le numéro de la Corse.
Parfaitement, si vous êtes justement un Corse, un Breton ou un Antillais qui habite ou à Lille ou en région parisienne parce que les hasards de la vie vous y ont conduit, mais que vous voulez faire référence à vos racines ou à vos origines, vous pouvez effectivement mettre le numéro de département de vos origines avec le logo de la région qui va avec.
Gérard Gachet, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, répondait à nos questions.
Sur les routes du monde.
Route du Monde vous propose aujourd'hui de voyager à partir du sud-est de la Turquie vers l'Irak, dont la reconstruction offre toutes les opportunités pour le commerce. Chaque jour, des milliers de camions en provenance de Turquie et du reste de l'Europe transitent par cette frontière. Écoutez ce reportage de notre envoyée spéciale Fatma Kizilboga.
C'est sur un espace de 800 km de largeur que s'étale la région du sud-est de la Turquie. Ici, les terres ne sont pas très fertiles et si les paysages de chaînes de montagnes qui défilent tout au long de ce qui était l'une des routes de la soie sont à couper le souffle, la lutte armée entre l'armée turque et les rebelles kurdes du PKK pendant la décennie 90 a longtemps empêché le gouvernement d'y mener une politique d'investissement. Le Kurdistan turc est ainsi la région la plus pauvre du pays et si le commerce transfrontalier a toujours existé entre les deux pays, aujourd'hui, avec la reconstruction de l'Irak, c'est toute la région qui ne vit que de ce commerce, comme l'explique Adnan Elchi, président de la chambre de commerce de
Cizre. Nous vivons dans un département où les capacités de production sont quasi inexistantes. Ce problème ne concerne pas seulement notre département, mais toute la région. Contrairement à l'Europe, où il est question d'un amoindrissement du marché, nous constatons un renforcement du commerce avec l'Irak. D'une part, parce que la crise n'a pas affecté les pays arabes du Moyen-Orient, et donc l'Irak, mais également parce qu'il n'est pas question d'inflation dans ces pays riches en dollars. Ils préfèrent faire du commerce avec des pays auxquels ils font confiance. Et en ce moment, c'est la Turquie qui est favorisée par cette situation.
Sur le bord de l'E90, l'unique route qui mène au poste frontière de Habour, les passages de camions sont incessants. En témoignent d'ailleurs les nombreux nids de poules, mais les travaux d'élargissement des voies et de regoudronnage entamés ces derniers mois indiquent une intensification des relations économiques. Un marché juteux qui a rapporté 8 milliards de dollars à la Turquie en 2008. Nous voilà arrivés au poste frontière de Habour où une file d'attente de 5 km attend les camions en partance pour l'Irak. En termes de délai, cela représentait près d'un mois d'attente pour les camions l'an dernier. Aujourd'hui, la moyenne n'est que de 4 jours d'attente. Un progrès, signe de l'importance de ce marché pour les autorités turques, admet Ismail Konur, agent douanier au poste frontière.
Le poste frontière de Habour est en proie à un trafic intense, ceci en raison de l'importante demande de l'Irak depuis l'après-guerre. Et nous faisons notre possible pour répondre à cette demande. Mais comme tous les postes de frontière, nous avons une série de procédures à respecter. C'est pour cela qu'on peut avoir une impression de trafic à première vue, mais il n'y a rien d'anormal. Les commandes concernent tous les secteurs, mais principalement, je dirais, autour de 70%, celles-ci concernent du matériel de construction.
En moyenne, 2000 camions transitent chaque jour par ce point. Sur les 24 voies de passage au poste frontière, 20 ne sont réservées uniquement qu'aux camions. Mais au-delà des problèmes de logistique, la principale difficulté qui attend les conducteurs se trouve du côté irakien. La sécurité peine encore à s'installer dans l'ensemble de l'Irak, raison pour laquelle la majorité des routiers se contentent de livrer dans la partie kurde de l'Irak, à l'instar de Faisal Bor.
Nous allons à Dohuk, Zakou, Souleymani au maximum. Nous ne pouvons pas aller dans la partie arabe de l'Irak, c'est trop dangereux. On ne sait jamais ce qu'il peut nous arriver là-bas. Les seuls camions à y aller transportent du matériel pour les Américains en provenance de l'OTAN. Ceux-là sont escortés par l'armée américaine. Beaucoup de camionneurs ont perdu la vie en faisant ce trajet. En 4-5 ans, 150 à 200 personnes sont mortes sur ces routes. Rien que dans mon entourage, une vingtaine de camionneurs a trouvé la mort sur ces routes.
L'ouverture d'un second poste frontière est envisagée par le gouvernement turc dans les prochaines années. L'objectif des échanges, lui, est de 25 milliards de dollars d'ici 2015. Fatma Kizilboga, Silopi à la frontière irakienne, RFI.
Au guidon cette semaine,
dans la famille des grandes motos routières, je voudrais la Honda Pan-European STX 1300, celle qui a commencé sa carrière il y a 20 ans déjà sous le nom de Pan-European 1100 ST. Au guidon, notre spécialiste gros cube Frédéric Gassman essaye pour vous cette semaine cette superbe machine.
20 ans. Voilà déjà 20 ans que le constructeur japonais Honda, qui cherchait alors à proposer une alternative à sa mythique Goldwing dans son catalogue de motos routières, a eu l'idée de placer dans un cadre spécialement conçu le groupe 4 cylindres en V de 1085 cm3, équipant alors quelques-uns des modèles de sa gamme auto. Compte tenu des nombreux problèmes techniques que cela pouvait poser, on pense notamment à l'équilibrage ou aux vibrations, il fallait oser. Mais le pari fut gagné puisque cette machine, née en 1989 et aussitôt baptisée 1100 ST Pan-European, n'allait disparaître du catalogue que 12 ans plus tard pour laisser place à cette évolution du nom de STX 1300 qu'il nous a été donné d'essayer pendant une dizaine de jours sur les routes de France. Avec un plaisir non dissimulé, car tout ici est conçu pour avaler les kilomètres en toute sérénité. Excellente position de conduite, excellent freinage assuré par 3 disques associés à un ABS monté de série, ça va de soi, puissance portée à 106 chevaux, puissance disponible à presque tous les régimes, bref, une authentique grande routière dont le seul défaut, si l'on peut dire, est de vous emmener très, trop rapidement, bien au-delà des vitesses maximales ridicules imposées aujourd'hui sur le réseau routier français. Le tout avec une consommation très raisonnable que nous avons estimée, en duo, avec des bagages, aux alentours de 8 litres d'eau aux 100 km en utilisation autoroutière, un peu au-delà sur le réseau secondaire ou lorsque la route s'élève. Mention bien également pour la bulle, réglable électriquement, l'éclairage, même par temps de pluie, et un tableau de bord digne de l'automobile. S'il fallait trouver quelques défauts, on regretterait l'absence d'une sixième vitesse, et on citerait ces rétroviseurs intégrés au carénage dans un souci d'esthétique sans doute, mais placés si bas qu'ils en deviennent partiellement inefficaces. On oubliera également le klaxon digne à peine de votre première mobilette. Pour chevaucher votre Honda Pan-European STX 1300 bien à vous, il vous en coûtera 15 800 €, à rapprocher des prix de la concurrence, 15 350 € pour la moto Guzzi Norge GTL ABS, 16 250 pour la Yamaha FJR 1300 ABS, 16 049 pour la Kawasaki 1400 GTR, enfin 16 770 € pour la BMW R1200 RT ABS. À 15 800 €, cette Honda est finalement aussi une bonne affaire.
L'autopassion.
C'est la première société de location d'auto de collection sans chauffeur. Rent a Car Classic propose toute une collection de voitures de rêve des années 60-70, un peu comme on en apercevait dans les films de l'époque. C'est d'ailleurs tout à fait l'esprit qui a inspiré Fabrice Leroy, l'inventeur du concept. Il a accepté de quitter quelques instants le volant de l'une de ces belles machines pour répondre à nos questions.
Alors, ce qui est nouveau en France, grâce à Rent-A-Car Classic, c'est la possibilité de louer une voiture de collection
sans chauffeur. Effectivement, comme vous le disiez, on pouvait jusqu'à maintenant louer une voiture de collection avec chauffeur pour un mariage ou un événement. Mais ce que nous offrons, c'est la possibilité de prendre le volant réellement d'une voiture de collection et de découvrir la Côte d'Azur d'une façon différente.
Oui, il faut préciser que vous vous situez sur la Côte d'Azur et qu'il y a un esprit un peu Côte d'Azur, années 60. On est un petit peu aussi dans l'univers, un univers proche des films de ces années-là, les cabriolets, la Côte d'Azur, c'est un peu ça ?
Effectivement, je crois que le mot-clé, c'est Riviera, c'est l'idée de la French Riviera. Et nos voitures, notre collection idéale, essaye de coller au plus près à cet esprit de la French Riviera. Vous savez, il y a quelque chose de très fort entre l'histoire de l'automobile et l'histoire de la Côte d'Azur. Ici, nous avons le rallye de Monte Carlo avec le col du Turini. Nous avons le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Il y a toutes ces routes avec les corniches qui nous ramènent au film d'Hitchcock, La main au collet, Cary Grant au volant d'une Jaguar. C'est ça aussi, la Côte d'Azur, c'est quelque chose qui est très lié à l'histoire de l'automobile et c'est ce qu'on essaye aussi de proposer, c'est de prendre le volant d'un de ces monstres sacrés pour se faire un peu son cinéma.
Alors, mettez-nous l'eau à la bouche, qu'est-ce que vous proposez au catalogue ?
Alors, nous proposons une collection idéale. Vous savez, quand on aime les voitures, on les veut toutes. Nous, on propose pour un jour, pour une semaine ou pour toutes vos vacances, de prendre le volant de toutes les voitures qu'on voudrait, italiennes, allemandes. Alors, ça va de la Méhari du gendarme de Saint-Tropez, que nous louons à partir de 99 euros par jour, jusqu'à de véritables mythes comme la Lace Cobra ou la Jaguar Type E, voire même une Rolls-Royce pour une soirée ou un dîner à Monaco.
Là, dans ce dernier cas, cela doit être nettement plus cher.
C'est un peu plus cher, mais nous situons en fait entre la location normale et ces locations de Lamborghini ou de Ferrari ultra modernes. On a des prix qui sont assez abordables pour ce type de voiture. Vous pouvez partir au volant d'une Lace Cobra pour 299 euros par jour. C'est-à-dire, ma foi, le prix d'une berline un peu cossue dans une société de location, je dirais, normale.
Mais alors, dites-moi, on doit avoir qu'une peur, c'est d'avoir un froissé une aile ou pire, faire une sortie de route ?
Écoutez, je crois que ces voitures sont en fait, elles vous ramènent aux sources de l'automobile. Il n'y a pas d'électronique, ce sont des voitures qui sont formidables à conduire, qui vous donnent des sensations extraordinaires, mais qui en fait ne sont pas très rapides, qui sont aussi assez développement durable parce que plutôt que de jeter, on fait durer donc ces voitures, ces voitures des années 60 et 70, et elles ne sont pas dangereuses. En plus, elles sont vraiment faites pour ces routes de la Côte d'Azur. Elles sont nées sur ces routes et elles s'y expriment sans problème. Et on n'a pas trop d'inquiétude parce que on a une clientèle vraiment formidable, de passionnés qui prennent énormément soin des voitures et qui nous le ramènent toujours en parfait état.
Si l'aventure vous tente, il n'y a plus qu'à taper www.rentecarclassique.com. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Benjamin Availlou pour la réalisation de ce 143e épisode de votre feuilleton préféré sur la route. À la technique aujourd'hui, Elodie Domanger, que je remercie également. Musique, avant de se quitter, The Motorcycle Song, Arlo Guthrie. À la semaine prochaine. Salut. Thought it'd go